Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue dans cette édition éliminatoire de la CAN 2023. Les dieux du football sont avec les étalons. Les étalons donc ont étrié le bouclier des rois de Eswatini par 3 buts à 1 hier. Insécurité au Burkina, le commissariat de police de et la brigade de gendarmerie de Tansila attaqués tôt hier par des hommes armés non identifiés, pas de perte en vie humaine. Et puis en justice, l'activiste Naïm Touré condamné à 12 mois de prison ferme pour diffamation. Rémunération des membres du gouvernement, le moment est inopportun pour une augmentation de salaire et même que cette action du gouvernement est indécente. C'est ce que pense notre invité du jour. Il s'agit de Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement.
Oméga Sport.
Et nous débutons par le sport. Deux matchs, deux victoires pour les étalons dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après le Cap Vert, vendredi dernier, c'est à l'Eswatini, ex-Swaziland, que les étalons ont écorché à leur tableau de chasse avec une victoire 3-1. Un succès qui porte la marque de Dango Ouattara, auteur d'un doublé, ses deuxième et troisième buts dans les éliminatoires, Benabé Cabré.
Le Burkina Faso enchaîne une deuxième victoire dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les étalons ont renversé l'Eswatini, ex-Swaziland 3 buts à 1, ce mardi à Johannesburg à l'occasion de la deuxième journée des qualifications. Mené 1-0, le réveil des étalons ne s'est pas fait attendre. Grâce à un doublé de Dango Ouattara et un but d'Aziz Stefanki, les Burkinabés ramènent l'Eswatini sur terre et l'emportent 3-1. Une victoire du mental, selon le capitaine Issoufou Dayo.
La deuxième mi-temps, ils arrivent à nous marquer un but. On a été fort moralement, mentalement, on était bien. On a mis les 3 buts. Voilà, c'est le résultat qui compte. Ça nous aide beaucoup à continuer notre chemin.
Pour prendre à défaut cette équipe d'Eswatini, le coach Firmin Sanou a dû mettre de la vitesse dans le jeu.
Ce qu'on n'arrivait pas à faire en première mi-temps, on était en difficulté. On était dans un rythme très très lent. Mais dès qu'on a accéléré le jeu, donc on a vu qu'ils étaient en difficulté. Et puis ça nous a ouvert les espaces et on a pu marquer ces 3 buts.
Cette victoire conforte le Burkina Faso à la première place du groupe B avec 6 points devant le Cap Vert qui a engrangé ses 3 premiers points en battant le Togo de Paolo Duarte 2-0. Les étalons se rapprochent un peu plus de la Côte d'Ivoire, mais même en cas de qualification avant l'ultime journée, les joueurs promettent de se faire plaisir. Issoufou Dayo.
Tous les matchs qui restent, on va les jouer à fond. Même si il nous faut toutes les victoires, on va le faire. Et voilà, on est des compétiteurs. On va le faire. On est concentré toujours dans la course. Et je pense qu'il n'y a pas de relâchement. Même si on a 6 points en septembre, on va venir avec plus de force.
La prochaine journée va se jouer en septembre. Le Burkina Faso aura une double confrontation face au Togo qui peut dire adieu à la CAN s'il ne prend pas au moins 4 points sur 6 devant les étalons.
Cette victoire des étalons a suscité des encouragements et des conseils à l'endroit des étalons par les supporters. Momoni Tambora et Gisèle Tirogo ont tendu leur micro à quelques supporters.
Le poulain de Firmin Sanou, qui a couché les étalons à l'absence du titulaire Hubert Velud, testé positif au Covid-19, peu décisif en première période, en plus de match à leur compte en seconde partie. Une méthode qui s'est avérée coûteuse avec les 3 buts inscrits par Dango Ouattara et Aziz Ki. Les supporters des étalons trouvent la victoire rassurante pour les matchs à venir.
Ouais, aujourd'hui, en tout cas, on a été fiers de l'équipe là. Ils ont fait la fierté du Burkina. On veut que ça continue comme ça. On veut que la Coupe de cette année, la 2023, que ce soit les étalons, voilà.
Et ça fait la deuxième victoire dans cette compétition. Donc ça montre qu'avec les changements multiples au sein de l'encadrement, là, ça porte des fruits. Donc on est très content et nous souhaitons que ça continue comme ça aussi.
Bon, le match des étalons était très bon. Nous avons suivi la première mi-temps où c'est fini 0-0 si je crois bien. Voilà, la deuxième mi-temps, ils ont essayé de faire de leur mieux, mais les passes n'ont pas été très décisives. Mais à la 65e minute, nous avons vu que les Swatini voilà, ont marqué leur premier but. Bon, il y avait un peu de stress. Mais à la 70e minute, l'aimé Dangote, il a dangotilisé le premier but à la 70e minute.
Même si la victoire des Étalons face à l'Eswatini est satisfaisante et rassurante, certains souhaitent qu'il y ait plus d'engagement et d'efforts.
Mais en tout cas, la victoire, vraiment, ça nous va vraiment droit au cœur. Il faut que les enfants fassent beaucoup d'efforts pour continuer dans ce sens. Et il faut aussi que la nation tout entière les soutienne. Bon, bien sûr, il y a des erreurs par-ci, par-là, mais l'homme ne vit pas seulement avec des positifs. Il y a aussi des négatifs. Et il faut savoir effectivement prendre toujours le bon côté.
Le match d'aujourd'hui, je ne suis pas content. Le premier mi-temps, là, les joueurs là, n'ont pas joué. Ils n'ont pas bien joué. C'est pas bon. Il faut marquer quand même beaucoup de buts.
Nos joueurs ont été vraiment très bons, mais je ne suis pas du tout content. C'est manque de physique. Vraiment, le physique, là, ça manque. Côté physique, là, ce n'est pas intéressant. On manque de buteurs. Réellement, on manque de buteurs. Mais le physique, là, il faut réellement du courage. En toute sincérité, il faut réellement du courage. Le physique, là. Vous voyez des joueurs fleque-fleque qui font tomber nos joueurs, ce n'est pas intéressant.
Les Étalons conservent leur place de leader du groupe B avec 6 points plus 4. Prochaine sortie des Étalons est prévue en septembre prochain dans une double confrontation face aux Éperviers du Togo.
Et pour ces éliminatoires de la Cannes en Côte d'Ivoire, donc, plusieurs autres matchs se jouent aujourd'hui. Ouganda, Niger à 13h, Congo, Gambie, Gabon, Mauritanie et Tanzanie, Algérie à 16h et à 19h, on aura Bénin, Mozambique et Soudan, RDC. Je vous en parlais en titre. Le commissariat de police et la brigade de gendarmerie de Tansila dans la région de la Boucle du Monde ont été la cible d'attaques Toyem. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine selon des sources locales qui se sont confiées à Omega Media. D'importants dégâts matériels ont cependant été enregistrés selon nos sources. Pendant ce temps, dans la région de l'Est, ce sont les éléments de l'unité Cobra 4 de retour de mission qui ont été la cible d'une attaque à environ 5 km à l'entrée de Fadangoumam. Le bilan fait état d'un élément grièvement blessé. Il a été évacué au CHR de la ville. Politique à présent, l'Union pour le progrès et le changement UPC a entrepris depuis plusieurs semaines des tournées dans certains partis politiques. L'objectif de ces rencontres était de favoriser les échanges entre partis sur la situation nationale. Plus d'un mois après, les choses semblent avancer. Chaque parti a en effet désigné des points focaux qui ont été installés hier lors d'une cérémonie à Ouagadougou. Le rôle de ces points focaux est de définir le rôle et la place des partis politiques dans ce processus de transition en cours. Le compte-rendu de Valérie Guéry et Soumina Traoré.
11 partis politiques ont pris part à cette rencontre de concertation des présidents et leurs points focaux. Il s'agit pour ces acteurs politiques de réfléchir ensemble sur les défis actuels. Zéphirin Diabré, président de l'UPC.
Ces défis sont d'abord ceux que l'on connaît depuis de longue date, qui sont les défis sécuritaires, qui restent présents et même persistants. Mais ces défis aussi s'articulent autour de la question de la conduite à bon port de la transition actuelle qui, par définition, doit se terminer et laisser place à un état de droit constitutionnel normal mis en place à la suite donc d'élections législatives, présidentielles et locales transparentes et équitables.
Depuis le 24 janvier, le Burkina Faso a connu une interruption de l'ordre constitutionnel normal avec l'avènement du coup d'État et cela interpelle les partis politiques à trouver une résolution concrète pour redéfinir le rôle et la place de ces partis politiques dans ce processus transitionnel, à en croire le président de l'UPC.
Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les acteurs politiques que nous sommes là ne sont pas descendus du ciel. Nous sommes le produit de la même société qui fabrique et qui produit l'ensemble des différents groupes sociaux. Certes, nous ne sommes pas exempts de critiques parce que dans notre manière de faire la politique, nous commettons des erreurs, mais aussi des fautes. Mais dites-moi dans quel groupe social dans ce pays-là, il n'y a pas une partie qui fait des erreurs et des fautes. Si la situation de la nation doit incomber à quelqu'un, elle doit nous incomber tous.
Dans le souci de contribuer efficacement au processus de transition, les points focaux de ces partis politiques veulent jouer le rôle de force de proposition d'idées. Cette rencontre est donc le point de départ d'un processus d'échange entre acteurs politiques.
De politique, nous parlons en justice à présent. L'activiste Naïm Touré a été condamné à 12 mois de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a en effet rendu son verdict hier dans l'affaire opposant l'activiste au docteur Alfred Ouedraogo et la Caisse nationale d'assurance maladie. Abdelaziz Zoulabou nous en dit plus.
Le tribunal a déclaré l'activiste Naïm Touré coupable des faits de diffamation, le condamnant à une peine d'emprisonnement de 12 mois ferme et d'une amende de 500 000 francs CFA. Le tribunal condamne aussi Naïm Touré à payer à la CENAMU et son directeur général, Dr Alfred Ouédraogo, la somme de 1 franc symbolique à titre de dommages et intérêts en plus de 500 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses. Il ordonne la publication du dispositif de la décision pendant un mois dans le quotidien citoyen et la publication sur sa page une fois par semaine pendant 2 semaines consécutives. L'activiste Naïm Touré avait par une publication sur sa page Facebook accusé le directeur général de la CENAMU de puiser dans les caisses de la structure, marcher de gré à gré à répétition, passer dans la plus grande opacité, dépenses de prestige sans justificatif, gestion clanique, favoritisme, gabegie, mission farfelue voire fictive, etc., sont entre autres accusations portées par l'activiste contre la CENAMU et son DG. Le procès a eu lieu ce 31 mai et le délibéré a été rendu ce mardi 7 juin 2022.
Ils sont en plus de 431 000 candidats à avoir débuté hier les épreuves du CEP. Fin donc de la première journée de composition. Dans la journée d'hier donc, les candidats du centre de l'école PCA ont fini la composition des épreuves de français, d'histoire, géographie et des sciences. Facile, abordable, peu abordable était l'avis de ces élèves rencontrés par Chalda et Marina Ouédraogo.
Ils sont à la conquête du certificat d'études primaires CEP afin de réaliser leur rêve d'enfance. Pour y parvenir, il faut d'abord réussir à son CEP. Dans cette salle, la peur et la confiance se lisent sur le visage de ces candidats. Après les épreuves de français composées ce matin, ce sont les épreuves d'histoire, géographie et de sciences qui ont clôturé cette première journée de l'examen. Certains candidats trouvent abordables ces sujets.
Les épreuves étaient faciles parce que je connaissais. Si je gagne mon CV, je vais devenir député. Les épreuves ont été faciles. Je prie Dieu que tous les élèves du Burkina Faso gagnent leur CV plus 1 et que tous les élèves qui font examen au Burkina Faso gagnent leur examen.
Bien que certains trouvent faciles les sujets, d'autres par contre les trouvent difficiles.
À l'histoire, géographie et la rédaction. La rédaction a été un peu difficile pour des élèves qui ne connaissaient pas ce que signifiait la sécurité. Ça, c'est le message qu'on peut faire à l'école ou dans les endroits plus difficiles. Les matières qu'on appelle aujourd'hui sont la rédaction, la dictée, l'étude de texte, l'histoire géographique. L'histoire géographique a été un peu difficile.
Les examens du CEP session de 2022 n'a connu aucune difficulté majeure, selon le président du centre, Iwaoga Gigma.
Bon, pour le moment, en tout cas, aucun cas n'a été signalé. Il n'y a pas eu de problème. Pas de défection, il n'y a pas de problème. Les enfants composent sans problème.
Le centre de l'école PC compte 356 candidats inscrits, dont 3 abandons, nous a confié le président du centre.
Merci à Chalda et nous restons dans le monde éducatif pour parler de ce geste salvateur de l'association Monde Solidaire. Cette association a en effet mis du baume au cœur des élèves de l'école primaire de Nianlé, village situé à une quinzaine de kilomètres de Orodaram. Ce sont entre autres des cartables et des kits scolaires qui leur ont été distribués. Le même acte de générosité a été posé à l'endroit des élèves déplacés internes de Orodara. Borema Badini nous en parle.
Les élèves de l'école primaire de Nialé dans le Kénédougou reconnaissant à l'AMS, l'association Monde Solidaire. Les 132 écoliers de l'établissement ont chacun reçu un cartable.
Aminata Ouattara, représentante des élèves.
Je prends la parole au nom de tous les élèves de l'école de Nialé pour exprimer notre joie et notre satisfaction pour les dons reçus.
Les meilleurs élèves, quant à eux, seront dotés en kit scolaire, de quoi aborder sereinement la prochaine rentrée.
Oumarou Soro est le président de l'association Monde Solidaire.
Pour ce faire, nous avons choisi les 15 meilleurs élèves de chaque classe. Et ici, il faut signaler que l'école a 3 classes et ce sont les 15 meilleurs élèves de chaque classe que nous avons bien voulu récompensé ce matin. La cérémonie de ce matin était une journée d'excellence qui a été doublée aussi d'une remise de kits de dignité aux filles qui ont 10 ans et plus. Et ces kits de dignité ont été acquis à travers notre partenaire l'UNHCR.
Même les prochains recrues n'ont pas été oubliés. Oumarou Soro, président de l'association Monde Solidaire.
L'association Monde Solidaire a aussi trouvé 55 cartables pour les nouveaux élèves de la classe de CP1 qui feront l'année scolaire 2022-2023.
Légitime joie donc des bénéficiaires, satisfaction partagée par le directeur de l'école. Aristide Dera.
Moi ce matin la joie est tellement immense, les cadeaux que nous venons de recevoir, vraiment je suis très content. Ça va vraiment booster la fréquentation des élèves même et ça va apporter également la joie dans beaucoup de familles. Les familles ça va pas, ils ne peuvent même pas s'acheter des sacs, il n'y a rien pour avoir à manger, c'est difficile.
À Orodara, ce sont 47 élèves déplacés internes qui ont bénéficié de la générosité de l'association Monde Solidaire. Oumarou Soro, président de l'association Monde Solidaire.
Parce que ces élèves se sont déplacés, ne sont plus dans leurs écoles d'origine. Et certaines écoles ont bien voulu les accueillir et pour leur permettre de continuer convenablement leur cursus scolaire, tel le cas de Orodara. Donc nous avons jugé utile avec notre partenaire l'UNHCR, Super U et Hyper U, d'accompagner ces élèves avec des dons qui sont des cartables et puis des kits de dignité et aussi des fournitures.
Cyril Somda, chef de la circonscription d'éducation de base de Orodara.
Au niveau de la circonscription d'éducation de base de Orodara, nous avons reçu 47 élèves déplacés internes. Ici, c'est ceux qui sont officiels. Sinon, après leur recensement, avec l'événement de Nouna et de Dougou, nous continuons donc d'en recevoir. Donc, le nombre n'est pas exhaustif. Mais néanmoins, avec les 47, nous avons constaté que franchement, ils arrivent donc dans des difficultés très difficiles.
L'AMS a été créée en 2021, une association à vocation humanitaire.
Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, Adama Big Togo, cadre du parti au pouvoir, a été élu hier président de l'Assemblée nationale avec le soutien des députés de la majorité et de l'opposition. Son élection intervient un mois après le décès de son prédécesseur Amadou Soumaoro. Adama Big Togo, 59 ans, avait assuré l'intérim en l'absence d'Amadou Soumaoro qui avait été absent de longs mois avant son décès le 7 mai dernier. En RDC, le roi des Belges Philippe a débuté hier sa première visite officielle dans le pays depuis son accession au trône en 2013. Le souverain doit prononcer un discours très attendu à ce mercredi. Ce déplacement, initialement prévu en juin 2020 pour le 100e anniversaire de l'indépendance du Congo, mais reporté trois fois en raison de la pandémie de coronavirus puis de la guerre en Ukraine. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le roi des Belges avait adressé une lettre au président congolais exprimant ses profonds regrets pour les blessures causées par la colonisation.
L'invité du jour.
Notre pays traverse des moments les plus difficiles de son histoire et c'est le moment choisi par le gouvernement de rehausser son train de vie à travers des salaires. Pour le président du parti Le Faso Autrement, le moment est inopportun et même que cette action du gouvernement est indécente. Ablassé Ouédraogo est notre invité. Il répond aux questions de Ibrahim Bayili.
Président Ablassé, bonjour.
Bonjour.
Notre pays traverse des moments difficiles. Alors, comment est-ce que vous, en tant que Burkinabé, en tant que président de parti, vivez cette situation?
Je pense que pour tous les Burkinabés, les moments sont très difficiles. Les moments sont à la limite insupportables, parce que ce n'est un secret pour personne. Notre pays traverse une crise multidimensionnelle, une crise politique, une crise sécuritaire, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique. Et là où il y a la souffrance pour le peuple, c'est au niveau économique. Et il ne faut pas se voiler le visage, la face. La famine est en train de descendre sur le Burkina Faso comme un gros nuage. Ce qui est dommage, et je ne peux que le souligner ici de façon solennelle, en ces moments très très difficiles pour la population, c'est là que le gouvernement choisit de relever le niveau de ses salaires. Je dis que le moment est inopportun et c'est même indécent. Cette action de la part du gouvernement qui a rehaussé le salaire des ministres à 2 300 000. Je dis, nous devons développer la solidarité dans notre pays. Nous devons apprendre à vivre ensemble parce que les moments sont difficiles. Et en toute honnêteté, je dis que les hausses de salaire des membres du gouvernement qui ont été annoncées sont tout simplement indécentes. Et je prie le Seigneur qu'il ouvre les yeux des membres du gouvernement pour qu'ils puissent corriger la trajectoire. Parce que le pays est dans une situation difficile. Et comme je le dis, eux, ils prônent que le train de vie de l'État soit réduit. Et pendant ce temps, ils augmentent leur propre train de vie. La population ne peut pas comprendre. La population ne peut pas être patiente. Et la population finira par réagir. Donc, pour moi, on n'avait pas besoin donc de cette décision du gouvernement. Surtout que cette décision concerne ses propres membres. Augmenter les salaires.
Oui, ils ont argumenté qu'il faille se conformer à l'évolution de la cherté de la vie.
Alors, vous pensez que toute la population va bénéficier d'un salaire de 2 300 000 ? Non, ne jouons pas à cache-cache. Ils sont venus parce qu'ils aiment leur pays. Ils sont venus au gouvernement parce que ce sont des patriotes. Ils sont venus au gouvernement pour une période de transition. Ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Qu'ils se mettent dans la tête qu'ils sont au service de la nation. Et notre nation n'est pas en mesure de payer des salaires de 2 300 000 pour chaque ministre.
Oui, monsieur Ablassi, c'est vrai que maintenant que le décret est signé, est-ce que pour vous, il faut qu'il faille marche arrière?
Vous savez, soyons raisonnables, soyons logiques. Et si le gouvernement travaille pour l'intérêt de la population, et si le gouvernement admet que la population est dans une situation de souffrance, il lui appartient à lui, gouvernement, de prendre la décision qui s'y est. Donc, je n'ai pas de conseil à leur donner.
L'UPC vient de réunir des partis politiques. Que pensez-vous de cette réunion convoquée par l'UPC?
Je pense que tout le monde doit comprendre que le peuple n'appartient pas aux politiciens. Le peuple n'appartient pas aux militaires. Toutes les initiatives peuvent être les bienvenus, mais j'ai dit que le Burkina Faso traverse des moments difficiles et qu'il faut que tous les acteurs acceptent de se serrer les coudes derrière la transition, derrière les autorités de la transition, pour que le Burkina Faso puisse réussir donc cette période de transition. Et je dis, et c'est malheureux, les plus virulents dans l'agitation politique actuelle, ceux qui utilisent les invectives, ceux qui utilisent les menaces, ce sont ceux-là même qui ont conduit le président Kabore à sa perte, qui ont conduit le président Kabore dans le gouffre, qui ont conduit le Burkina Faso dans cette situation difficile dans laquelle nous vivons.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité, le président du Parti le Faso Autrement, Ablassi Ouédraogo. Merci à vous pour votre fidélité au programme de la radio Omega. Edwige Tiendrebego à la réalisation, Denis Azungrana pour la présentation. Excellente journée à toutes et à tous. Radio Omega.